chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Était-elle née le 3 septembre 1499, on ne sait où, ou le 31 décembre 1499, toujours comme l'indiquent d'autres sources, peu importe. Ce jour-là, une vieille femme vint prédire au-dessus du berceau de Diane de Poitiers, de la future Diane de Poitiers, que son étoile, sa bonne étoile, l'élèverait plus haut qu'une reine. Diane est la fille aînée du comte Jean de Saint-Vallier, seigneur de Poitiers. Ce nom d'ailleurs n'a rien à voir avec la capitale du Poitou. Il désigne un ancien marquisat de Provence, Pétilleux, Poitiers en langue d'oïl. Diane était prédestinée. Elle fut prénommée ainsi en hommage à la déesse de la chasse. Elle était d'ailleurs une grande chasseresse. À l'âge de 6 ans, elle chassait déjà avec son père. Elle avait son faucon sur son gant de cuir et chevauchait crânement près de lui. Elle devint une excellente cavalière et le fut d'ailleurs toute sa vie. Diane vécut très tôt à la cour de Louis XII. Elle avait quitté le château de famille en Dauphiné et apprit à la cour le latin, le grec, le théâtre et la danse, la philosophie, étudia Platon, l'art de la conversation. C'était une jeune fille de la Renaissance, accomplie, consciente de la dignité du rang à tenir et qui suivit ses propres principes tout au long de son existence, en femme indépendante et très déterminée. « Soyez toujours en port honorable, disait-elle, en manière froide et assurée. Humble regard, basse parole, constante et ferme, toujours en à propos, sans fléchir, modération en toute chose. Elle sut en outre prendre grand soin d'elle, préservant la jeunesse de son corps avec grand succès. Tous ses contemporains la disaient très belle et parlaient même à son égard d'éternelle beauté. Le portrait que j'ai sous les yeux est révélateur. Elle pose, nue, dans sa baignoire, avec son buste superbe, ses jolis bras et ses fines mains, un beau visage au front haut, nez aquilin, fins sourcils et beaux yeux sombres, séduisante à l'extrême. Elle devient très vite la dame d'honneur de la reine Anne, puis celle de la reine Claude, l'épouse de François Ier, dont elle assiste au couronnement en 1515. Elle est mariée à 16 ans au grand sénéchal de Normandie, Louis de Brézé, de 40 ans plus âgé qu'elle. C'est sous le nom de Diane de Brézé qu'elle est dès lors connue de ses contemporains. Le nom de Diane de Poitiers lui ayant été attribué bien plus tard par le romancier Alexandre Dumas. Son père est mêlé malgré lui à la conspiration du connétable de Bourbon. Dépouillé de ses biens et condamné à mort, enfin gracié d'extrême justesse sur l'échafaud. Diane échappe cependant aux conséquences de ce faux pas paternel. Louis de Brézé est alors âgé de 57 ans. Chasseur émérite, riche, très riche, puissant, très bien titré. Diane, la silhouette élancée, le port aristocratique, blonde, au front haut, la peau blanche et pâle. Des yeux gris-bleus, le nez droit, une petite bouche aux lèvres pleines, atteint ainsi un rang royal juste inférieur à celui de princesse. Le troisième rang du royaume, leur domicile est Annette. Demeure sinistre et en ruine. Le château a bien changé. Lors du passage du roi à Rouen, Louis de Brézé lui remet les clés de la ville et l'accueille chez lui. La cour s'aperçoit vite que la grande sénéchale de Normandie prend très au sérieux son mariage et ne se laisse pas conquérir par les courtisans, à tel point que François Ier annote un portrait de Diane, belle et sage, en 1520. Thank you. lors de l'échange de François Ier prisonnier de Charles Quint contre ses enfants, Diane soutient les deux petits princes de son affection et par ses paroles réconfortantes. Le roi, de retour à Rouen, profite souvent de l'hospitalité des Brézés à Annette et il est réellement conquis par l'intelligence et la culture de Diane. Il lui offre une nouvelle place à la cour. Elle devient dame d'honneur de sa mère, Louise de Savoie. Au début de l'été 1530, les enfants royaux reviennent d'Espagne. Le jeune Henri se tourne vers les deux seules personnes qui lui ont témoigné de l'affection, Diane et le connétable Anne de Montmorency. Les enfants passent l'automne à Annette auprès de Diane et de Louis de Brézé, puis rentrent à Saint-Germain. Au cours du tournoi, en l'honneur de la nouvelle reine Éléonore, sœur de Charles Quint, le jeune Henri choisit sa dame, c'est Diane. Pour l'élection de la belle parmi les belles, la reine Éléonore, la maîtresse du roi Anne de Pisseleu et Diane de Poitiers sont en compétition. Comme la maîtresse du roi et Diane sont à égalité, Anne de Pisseleu, vexée, n'aura plus qu'un objectif dans sa vie, anéantir Diane. En juillet 1531, Louis de Brézé s'éteint et Diane n'a que 32 ans. De cette date, après 17 ans de vie commune heureuse, Diane ne porte plus que du noir, avec quelques touches de blanc. À ses armoiries, elle rajoute le symbole d'une veuve, une torche tournée vers le bas, et sa devise est « Celui qui m'enflamme a le pouvoir de m'éteindre ». Se retirant à Annette, suite à la disparition de la régente Louise de Savoie, Diane s'occupe enfin d'elle-même. Elle pratique une hygiène de vie stricte, se lave à l'eau claire, prend par tout temps un bain d'eau glacée, un bouillon le matin, puis 3 heures de cheval dans la forêt. Pas de cosmétiques, pas de soleil, une peau toujours blanche, diaphane. Elle se vêt de soie. Elle attache à ses épaules de grands rangs de perles qui se croisent sur un corsage de velours noir, pourvu d'un profond décolleté superbe. Le bout des manches en fine mousseline, des pierres précieuses à sa taille. Diane règle les affaires de ses domaines, accorde des audiences, dîne à 18 heures et puis se couche. Appelée par le roi à la cour en automne 1533, Diane, proche parente de Catherine de Médicis, est choisie pour la guider et lui expliquer les rituels et les coutumes françaises. Réception grandiose, bal masqué, banquet sans fin pour ce grand mariage princier. Diane est vêtue de noir et blanc, porte même plumes blanches et noires à son chapeau. Henri II fait son devoir d'époux et puis retourne auprès de sa dame. Depuis qu'il avait l'âge de 6 ans et jusqu'à sa mort à 42 ans, Henri vouera à Diane une véritable adoration. Ils deviennent amants à la fin de l'année 1536 ou tout au début de l'année 1537, certainement d'ailleurs au château des Coins. Au matin de leur première nuit, Diane écrit un petit poème et l'envoie à Henri. « Voici vraiment qu'amour un beau matin s'en va m'offrir fleurette très gentille. Car voyez-vous, fleurette si gentille, était garçon, frais, dispos et jeûné. » Henri rayonne de bonheur grâce à la présence constante de Diane à ses côtés. Elle ne cherche pas l'amour d'Henri, mais elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas le laisser s'éteindre. Et le retient par la puissance de son esprit, de son intelligence, jusqu'à devenir marraine en 1538 de la petite Diane d'Angoulême, la fille d'Henri et de Philippa Ducci. Elle sera mariée au fils d'Anne de Montmorency. Mais les Guises s'imposent trop. Catherine de Médicis n'a toujours pas d'enfant. Ils proposent une nouvelle épouse pour Henri II, jeune, belle, qui risque de ravir la place de Diane dans le cœur d'Henri. La future reine et la maîtresse se serrent les coudes, comme l'on dit. L'une implore le roi, l'autre s'occupe du dauphin. Diane prend Catherine à part, lui parle avec douceur. Certains soirs, elle envoie Henri chez son épouse. Finalement, le miracle se produit. Catherine met au monde son premier petit garçon en janvier 1544. Le roi est tellement content, il offre une somme d'argent pour remercier Diane d'avoir aidé la dauphine. Une fois de plus, la maîtresse avait su se rendre utile. Mais les intrigues vont bon train à la cour. Les maîtresses royales se haïssent. François Ier bannit Diane de la cour, profitant qu'Henri soit parti à la guerre. Mais de retour de campagne, celui-ci se précipite à Annette. Le roi, fatigué en février 1545, rappelle Diane à la cour. Elle reprend donc sa position. La révolution a bien lieu en mars 1547, lorsque meurt François Ier. Le connétable Anne de Montmorency est nommé à la tête du conseil privé. Henri réclame alors les joyaux du trésor royal et les offre à Diane. et lui donne en outre l'autorisation d'y puiser à volonté. Cette dernière prend certes plaisir à recevoir tous ces honneurs, mais n'en perd pas la tête pour autant. Diane s'intéresse de très près au gouvernement et au fonctionnement des finances. Elle limite les dépenses en ce qui concerne les distractions, le faste de la cour. Elle incite le roi à réduire le nombre des courtisans et à instaurer de nouvelles mesures sociales. En particulier, les hôpitaux devaient accueillir les malades et les infirmes. Pour la remercier encore, Henri lui offre le plus beau château de la Loire, Chenonceau. Le jour du sacre d'Henri II, en juillet 1547, le costume du roi fait scandale. Carquois, arc, flèche, croissant de lune, double D, accroché aux haches. Lors de la naissance du troisième enfant de Catherine, Diane décide de la gouvernante, de l'alimentation même des enfants. Seule la parole de Diane compte. Pour les fêtes à Lyon en septembre 1548, tout est aux couleurs de Diane, des uniformes des soldats à l'harnachement des chevaux. Au cours de ces fêtes, elle devient la duchesse de Valentinois. En mai 1549, toutes les lettres sont nouées H et D, tout est blanc et noir lors du spectacle donné à Paris. Le roi signe même des lettres officielles Henri-Diane, accroché. Elle participe au conseil privé. Il passe des semaines à Annette, des heures à cheval, de bon matin, ainsi qu'à la chasse, et de magnifiques banquets clôturent les soirées. Henri fait faire des portraits de sa favorite. De cette époque date la tradition des portraits au bain. Annette est un véritable paradis. Henri s'y est remis de son emprisonnement en Espagne. Les enfants royaux y séjournaient de bon cœur. Le roi aime à passer de longs moments dans la bibliothèque. Tous les livres étaient reliés de maroquins rouges, ornés du chiffre du roi et de sa dame. Une des collections les plus prestigieuses de la Renaissance. Henri fait même d'Annette le siège de son gouvernement en y écrivant le courrier et en y accordant les audiences. Les années de guerre de 1552 à 1557, la reine et la maîtresse royale doivent se côtoyer. Et la cohabitation est rude. Diane se rendit un jour dans les appartements de Catherine, alors qu'elle lisait. « Je lis les histoires de ce royaume, dit la reine, et j'y trouve que de temps en temps, à toute époque, les putains ont dirigé les affaires des rois. L'insulte fait le tour du royaume. » Après la trêve avec l'Espagne, les fêtes recommencent de plus belle. Jusqu'au funeste tournoi, où le roi est mortellement blessé. Diane se précipite auprès de lui, mais la reine refuse catégoriquement sa présence. C'est la première fois que Diane de Poitiers se sent totalement impuissante. Elle a peur, à juste titre, de subir la vengeance de la reine. Finalement, la souveraine la prie de regagner Annette, puis lui offre le sinistre château de Chaumont en échange de son joli château de Chenonceau. Elle rejoint Annette, où il lui reste tous les souvenirs d'Henri. À l'aube de ses 60 ans, elle est encore une belle femme, jouissant d'une bonne condition physique, malgré un accident de cheval qui lui fractura la jambe, elle vient d'avoir 64 ans. Brantôme écrivait « Je vis cette dame, 6 mois avant qu'elle mourût, si belle encore. que je ne sache cœur de rocher qui ne s'en fût ému. Encore qu'auparavant, elle s'était rompu une jambe sur le pavé d'Orléans, allant et se tenant à cheval aussi dextrement comme elle avait fait jamais. Mais le cheval tomba et glissa sous elle, et pour telle rupture et maux et douleur qu'elle endura, il eût semblé que sa belle face s'en fût changée. Mais rien moins que cela, car sa beauté, sa grâce, sa majesté, sa belle apparence étaient toutes pareilles qu'elle avait toujours eues. 2 ans plus tard, après une brève et grave maladie, elle s'éteint, en avril 1566, dans son château d'Anet. Elle avait réparti son immense fortune entre ses 2 filles et assuré des legs à un certain nombre de couvents. Diane de Poitiers est enterrée dans la chapelle funéraire qu'elle avait fait construire près du château. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera pour une autre émission de Bienvenue chez le Roi. Celle-ci était enregistrée et réalisée par Pierre Écart dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.